franceinter.fr.
Marcel!
La vérité suprême de la vie est dans l'art.
Mon Dieu, mais j'oubliais, c'est l'heure!
Un été avec Proust. Une émission de Laura El Maki.
La vérité suprême de la vie est dans l'art. Il y a une page très précieuse du temps retrouvé dans laquelle le narrateur s'interroge sur la matière de son livre à venir. Que contiennent vraiment les pages d'un roman? Une part de la vie de l'écrivain, indéniablement, avec son lot de souvenirs, de chagrins et de joies. Cette même idée de vérité dans l'art est omniprésente chez le critique d'art anglais John Ruskin, grand inspirateur de Marcel Proust. Et dans la recherche, Proust continue la réflexion de cet homme en explorant les beautés de la musique, du théâtre, de la peinture ou encore de l'écriture. Il n'y a finalement que le cinématographe évoqué à deux reprises qui ne trouve pas grâce à ses yeux. Alors pour cette dernière semaine de lecture d'À la recherche du temps perdu, je vous propose une plongée dans les arts en compagnie d'un fin connaisseur du sujet, le professeur, historien de l'art et romancier Adrien Goetz. Lecteur assidu de Balzac, de Chateaubriand et de Maurice Leblanc, il est l'auteur de plusieurs romans à succès, dont Intrigue à Venise, paru aux éditions Grasset. Il est chroniqueur au Figaro, comme l'était Marcel Proust. Et il a surtout publié dernièrement un article très éclairant dans l'ouvrage collectif Proust et ses amis, paru chez Gallimard. Nous allons justement en parler. Bonsoir Adrien Goetz.
Bonsoir.
Et merci d'être à mes côtés cette semaine. Ensemble, nous parlerons musique, peinture, écriture et lecture. Mais tout de suite, on ne déroge pas à la tradition, il est question de vous et de Marcel Proust.
Du point de vue esthétique, je crois ce qu'il y a d'essentiel, c'est que, je ne dirais pas que c'est Ruskin qui a appris à Proust, mais c'est Ruskin qui a révélé à Proust qu'il portait en lui-même cette capacité d'assimiler les œuvres d'art dans sa vie intérieure, au niveau de sa mémoire et au tréfonds même de son être. Je crois que cette identification, que Proust affirmera sans cesse, en particulier dans le temps retrouvé, cette identification entre l'art, d'une part, et d'autre part, la vraie vie, hein, et qui est quelque chose d'absolument essentiel chez Proust, puisque c'est même le mobile de son œuvre, je crois que c'est aussi le message essentiel de Ruskin. Et que, à cet égard, le message de Ruskin, au milieu du XIXe siècle, en pleine époque naturaliste, réaliste, positiviste, comme disait Baudelaire, c'était un message très original, c'était un message prophétique. Et si vous voulez, je dirais volontiers que Ruskin a été le prophète de Proust.
Adrien Goetz, je parlais à l'instant de Ruskin comme d'un inspirateur de Marcel Proust. Et le professeur Henri Lemaître, que nous venons juste d'entendre, va plus loin. Il dit que c'est le prophète de Proust.
Oui, il a une voix formidable, cet Henri Lemaître.
Ah oui, il a une élocution très...
Il est extraordinaire. Proust a lu Ruskin dans une sorte d'enthousiasme. Il a compris qu'une âme un peu semblable à la sienne existait quelque part. Et il a même voulu le traduire, puisque lui qui parlait très mal anglais, en s'appuyant sur des mots à mots faits par sa mère, a été le traducteur de Ruskin, le préfacier de Ruskin. Et il a introduit en France cet écrivain qui parle d'art, mais qui parle aussi d'une conception de la vie, où on revient à un monde artisanal, où on revient à une vie qui est celle des villages, à une vie qui peut être celle d'une sorte de combrée universelle, comme le petit village du comte Tolstoï, comme le village à partir duquel on peut réinventer le monde. Et ça, Proust l'a bien compris, et Ruskin avait été le premier à le dire. Et puis Ruskin lui a donné envie de voyager. On croit toujours que Proust est un reclus, mais Proust est parti sur les pas de Ruskin à Venise avec Reynaldo Hahn. Il montait sur un petit escabeau qu'ils avaient emprunté pour aller au Palais des Doges retrouver les chapiteaux que John Ruskin avait décrits et les voir face à face. Donc il faut imaginer ces scènes qui cadrent assez mal avec un stéréotype qu'on peut avoir d'un Proust enfermé dans sa chambre.
Alors, quelle était la thèse de Ruskin ?
Mais Ruskin a l'idée que l'amour de l'art peut sauver nos vies, que les bâtiments, les monuments du passé vivent de leur propre vie. Il ne faut pas les restaurer, il faut leur laisser leur âme. Et que devant le grand portail de la cathédrale d'Amiens, devant le beau Dieu d'Amiens, on peut donner un sens à son existence. Et ça, ça a été pour Proust une révélation. Et il est allé voir les portails des églises la nuit avec son automobile. Il partait Agostinelli au volant et puis il s'arrêtait vers 3h du matin devant la cathédrale de Bayeux, il braquait les phares et il regardait les sculptures. Donc ça, c'est aussi une appréhension directe de l'art que Proust doit à cette lecture de Ruskin qui a changé sa vie, qui lui a donné peut-être aussi l'envie de passer de la traduction à l'écriture.
Vous dites révélation, il parle aussi d'idolâtrie, Proust, en évoquant Ruskin. Et cette idolâtrie, il y revient quelques années plus tard et il se rend compte que c'était peut-être un petit peu naïf de sa part d'être aussi admiratif des thèses de Ruskin. Il y revient un petit peu après, il tempère, il nuance son
opinion. Oui, mais il a compris que comme écrivain, il pouvait être aussi un imagier médiéval, qu'il pouvait construire lui aussi sa cathédrale du Moyen-Âge. Il le dit dans plusieurs passages, il dit aussi à d'autres endroits que c'est peut-être un peu exagéré, qu'il voudrait peut-être simplement travailler comme quelqu'un qui crée une robe. Bon, plutôt qu'une cathédrale, mais c'est peut-être plus ambitieux parce que les robes, elles sont signées, on connaît les couturiers, alors que les artisans du Moyen-Âge sont anonymes. Donc ça, il le doit à Ruskin, c'est construire une œuvre qui ressemblerait à une cathédrale. Mais il ne le doit pas uniquement à Ruskin, il y a Émile Malle, qui lui est français, qui est un grand historien de l'art, qui a été pour lui une révélation, au point qu'ils se sont écrits, ils ont correspondu. Émile Malle, c'est celui qui a déchiffré l'iconographie du Moyen-Âge. Il nous a appris à reconnaître les figures de Chartres, on peut désormais savoir ce que représentent le calendrier des saisons, des mois, les neuf preux et les neuf preuses. Bon, ce déchiffrement hiéroglyphique de la cathédrale, Proust l'a lu dans l'art religieux du XIIIe siècle en France, qui a été un best-seller incroyable au début du XXe siècle et qui est le grand chef-d'œuvre d'Émile Malle.
Alors l'amour de Proust pour les arts commence très tôt. Très tôt, il s'illustre en tant que critique d'art dans plusieurs revues. Il court les expositions, les musées, il fréquente les salons avec des artistes, il côtoie les musiciens. Quelle ambition a-t-il en faisant tout ça ?
Il nous donne dans La recherche du temps perdu des exemples de ses créateurs. Moi, c'est les personnages que je préfère dans le grand roman de Proust. C'est le personnage de Bergotte, la figure de l'écrivain, le personnage de Vinteuil, le musicien, la figure d'Elstir, qui est le grand peintre. Et à travers tous ces personnages, qui sont pas du tout secondaires, Proust nous montre des miroirs de lui-même. C'est le créateur à l'œuvre dans différents domaines. Et le projet de Proust est en ce sens tout à fait comparable à ce qui se passe à la même époque, avec la volonté d'écrire un monde qui a été celle de Rodin avec la Porte de l'Enfer, où il réunit toutes ces sculptures, de Claude Monet dans le cycle des Nymphéas. C'était aussi le projet wagnérien, faire une œuvre qui serait tout un monde, comme ont pu le construire avant lui les écrivains qu'il aime et qui sont les écrivains que moi aussi j'aime lire, hein. C'est Saint-Simon avec le monde extraordinaire des mémoires de Saint-Simon, c'est Balzac et ce miroir de la société, c'est Chateaubriand, c'est des écrivains de la nuit, des écrivains qui sont dans un monde qui est le leur et qui nous décrivent tout ce que chacun peut ressentir, hein. C'est ses mille et une nuits à lui.
Alors comment vous-même, Adrien Goetz, avez-vous lu À la recherche du temps perdu ? En romancier ou en historien de l'art ?
Non, je l'ai lu en lycéen, j'étais en terminale, j'étais dans une terminale scientifique, on me torturait avec 9 heures de maths, 9 heures de physique chaque semaine, et c'était une évasion. C'est-à-dire que j'ai commencé à me lancer dans la lecture du début à la fin, hein, comme sans savoir ce qui m'attendait. Ça m'a pris un an et demi, comme une sorte d'antidote, c'était un refuge pour moi, c'était une protection. Je me suis lancé dans la lecture en terminale à la recherche du temps perdu. Et c'était le plaisir de faire une chose qui me paraissait totalement inutile, totalement gratuite.
La lecture.
Oui, la lecture de ce livre-là. Et ensuite, je suis engagé dans des études littéraires. J'ai arrêté, heureusement, les mathématiques, la physique.
Grâce à Marcel Proust, peut-être.
Et là, je me suis rendu compte que cette lecture parfaitement inutile me servait pour tout. Donc ça, c'est le conseil qu'il faut donner à ceux qui entrent en terminale à la rentrée. C'était utile pour la philosophie, c'était utile pour l'histoire avec l'affaire Dreyfus, la guerre de 14. Ça servait évidemment pour les dissertations de littérature. On pouvait même arriver à faire des dissertations sur le nouveau roman à partir de lectures de Proust. Et les profs de philo toléraient qu'on cite Proust. Ça, c'était merveilleux. Il n'y avait pas eu que Descartes et Spinoza. On pouvait aussi citer Proust en philosophie. Et en même temps, c'était bien et c'était pas si bien, parce que ce plaisir totalement luxueux de l'inutile était devenu la chose la plus utile au monde. Après, j'ai lu Proust, je l'ai relu, et puis je le relis par fragments. Vous savez, on ouvre à n'importe quelle page et là, on retrouve de vieux amis.
Et on tombe sur un passage qu'on redécouvre aussi. Vous avez choisi justement un passage très drôle de Sodome et Gomorre. Le narrateur se trouve à Balbec. Il est en pleine discussion avec Madame de Cambremer, dont il se moque. Il ne
oui, parce
pas,
qu'elle est la sœur
d'elle.
De Le Grandin. Le Grandin, c'est le snob de Combray. Et Madame de Cambremer, Le Grandin, qui est très fière d'avoir fait un beau mariage, même si elle ne le dit jamais, est aussi éperdument amoureuse des arts. Et c'est ça qui m'amuse et c'est ça qui me fait rire, parce qu'on en connaît encore des Madame de Cambremer.
Alors oui, elle a des opinions sur à peu près tout et particulièrement sur les arts. Nous allons le découvrir dans cet extrait justement. C'est à vous.
Pour revenir à des sujets plus intéressants, reprit la sœur de Le Grandin, qui disait ma mère à la vieille marquise, mais avec les années avait pris des façons insolentes avec elle, vous parliez de nymphéa. Je pense que vous connaissez ce que Claude Monet a peint. Quel génie! Vous me permettrez de lui préférer le sidanaire, dit l'avocat en souriant d'un air connaisseur. Et comme il avait goûté ou vu goûter autrefois certaines audaces d'Elstir, il ajouta: Elstir était doué, il a même fait partie de l'avant-garde, mais je ne sais pas pourquoi il a cessé de suivre, il a gâché sa vie. Justement, le soleil s'abaissant, les mouettes étaient maintenant jaunes, comme les nymphéas dans une autre toile de cette même série de Monet. Je dis que je la connaissais, et j'ajoutais qu'il était malheureux qu'elle n'eût pas eu plutôt l'idée de venir la veille, car à la même heure, c'était une lumière de poussin qu'elle eût pu admirer. Mais le nom de Poussin, sans altérer l'aménité de la femme du monde, souleva les protestations de la dilettante. En entendant ce nom, Madame de Cambremer fit entendre à 6 reprises, que ne se ferait presque aucun intervalle, ce petit claquement de la langue contre les lèvres qui sert à signifier à un enfant qui est en train de faire une bêtise, à la fois un blâme d'avoir commencé et l'interdiction de poursuivre. Au nom du ciel, après un peintre comme Monet, qui est tout bonnement un génie, n'allez pas nommer un vieux poncif sans talent comme Poussin. Je vous dirai tout nûment que je le trouve le plus barbifiant des raseurs. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pourtant pas appeler cela de la peinture. Monet, Degas, oui, voilà des peintres. C'est très curieux, ajouta-t-elle en fixant un regard scrutateur et ravi sur un point vague de l'espace où elle apercevait sa propre pensée. C'est très curieux. Autrefois, je préférais Manet. Maintenant, j'admire toujours Manet, c'est entendu, mais je crois que je préfère peut-être encore Monet. Ah, les cathédrales. Elle mettait autant de scrupules que de complaisance à me renseigner sur l'évolution qu'elle avait suivie, et on sentait que les phases par lesquelles avait passé ce goût n'étaient pas, selon elle, moins importantes que les différentes manières de Monet lui-même. « Du reste, continua Madame de Cambremer, j'ai horreur des couchers de soleil. C'est romantique. Cet opéra. C'est pour cela que je déteste la maison de ma belle-mère, avec ses plantes du midi. Vous verrez, ça a l'air d'un parc de Monte-Carlo. C'est pour cela que j'aime mieux votre rive. » C'est plus triste, plus sincère. Il y a un petit chemin d'où on ne voit pas la mer. Les jours de pluie, il n'y a que de la boue. C'est tout un monde. C'est comme à Venise, je déteste le Grand Canal. Je ne connais rien de touchant comme les petites ruelles. Du reste, c'est une question d'ambiance. Mais, lui dis-je, sentant que la seule manière de réhabiliter Poussin aux yeux de Madame de Cambremer, c'était d'apprendre à celle-ci qu'il était redevenu à la mode, Monsieur Degas assure qu'il ne connaît rien de plus beau que les Poussins de Chantilly. « Moi, je ne connais pas ceux de Chantilly, » me dit Madame de Cambremer, qui ne voulait pas être d'un autre avis que Degas. « Mais je peux parler de ceux du Louvre, qui sont des horreurs. » Il les admire aussi énormément. « Il faudra que je les revoie. Tout cela est un peu ancien dans ma tête, » répondit-elle après un instant de silence, et comme si le jugement favorable qu'elle allait certainement bientôt porter sur Poussin devait dépendre non de la nouvelle que je venais de lui communiquer, mais de l'examen supplémentaire et cette fois définitif qu'elle comptait faire subir au Poussin du Louvre. »
Alors le narrateur, mais surtout Marcel Proust, n'est pas tendre avec cette Madame de Cambremer qui est ridiculisée dans ce passage. C'est vraiment le snobisme intellectuel là, qui est décrit ici.
Oui, c'est un snobisme intellectuel qui lui permet de terrasser sa belle-mère, Madame de Cambremer, la dernière élève de Chopin, qui elle avait le snobisme musical. Mais je trouve aussi qu'on croit l'entendre, cette dame. J'ai lu comme j'ai pu. Vous savez que quand Proust lisait ses textes à ses amis, il faisait les voix. Alors moi, je suis pas comédien, je suis incapable de faire les voix, mais il faut imaginer ça en dialogue. Et c'est ce qui m'a plu quand j'étais étudiant et que je lisais Proust. C'est que c'était des textes très drôles. Et Madame de Cambremer, née le Grandin, je crois qu'elle existe toujours. Hein. On la croise à la sortie du Grand Palais, elle méprise ses cousines de province, elle parle en tranchant de tout ce qu'elle ne connaît pas ou de tout ce qu'elle vient d'apprendre. C'est exactement ce qu'on aime dans la lecture de Proust, hein. C'est ce petit théâtre de la mondanité, du snobisme qui va avec l'art. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est un snobisme qui est directement lié aux expositions, aux musées, à la peinture.
Et c'est un texte très actuel, hein, parce qu'encore aujourd'hui, hein, c'est très branché de parler exposition et art dans les dîners. Hein. C'est un texte qu'on peut lire aujourd'hui à l'envi.
Bien sûr. Vous avez vu l'exposition Geneviève Haas. J'aime pas beaucoup Geneviève Haas. Elle est un peu démodée, mais vous savez, Samuel Beckett était un de ses amis. Il appréciait beaucoup. Ah bon, alors il faudra que je les revoie, dit Madame de Cambremer, qui voulait pas être d'un autre avis que Samuel Beckett. Bon, ben voilà. On peut parfaitement transposer ce passage dans des dialogues qu'on entend chaque jour.
Alors, est-ce que Proust, à travers ce passage, nous dit finalement qu'il y a deux clans? Il y a ceux qui voient et ceux qui sont aveuglés. Il y a ceux qui parviennent à percevoir là, à le comprendre, et les autres qui restent en surface et qui ne parviennent jamais à en parler de manière... De manière précise.
Mais Proust capte très bien ce faux amour de l'art. Il aime beaucoup décrire l'esprit verdurin, les concerts où on se pâme, les extraits musicaux qui provoquent des émotions qui sont tellement fortes qu'on s'en décroche la mâchoire. Bon, tout ça lui est proche, mais lui est très étranger, parce que je crois que son amour de l'art personnel et parfaitement sincère. Et c'est ça qu'on va essayer de voir dans les soirées qui viennent. C'est que lui aime vraiment ça. Il n'y a aucun snobisme de sa part dans l'attachement qu'il a pour de grands musiciens ou pour de grands artistes comme Claude Monet, justement.
Alors, si vous pouviez lui donner un conseil à cette Madame de Cambremer pour voir vraiment un tableau, qu'est-ce que vous lui diriez? Comment regarder un tableau?
Il faut qu'elle oublie ce qu'on lui a dit, il faut qu'elle aille à Chantilly, il faut qu'elle aille au Louvre, et il faut sans cesse voir les œuvres de ses propres yeux. Ce que Proust a fait en allant à Padoue voir les fresques de Giotto dont il avait entendu parler, en parcourant la Belgique et la Hollande, hein. Proust est allé voir les œuvres d'art qu'il aimait, et Proust, à la fin de sa vie, trouve une dernière énergie pour aller voir la vue de Delft de Vermeer, qui est pour lui le plus beau tableau du monde. Donc, allez voir de ses propres yeux. Et ça, c'est ce que les historiens de l'art essaient de faire aujourd'hui. C'est ce que Daniel Arras demandait à ses étudiants et dans les entretiens à la radio qu'il avait enregistré. C'est cette vision en prenant son temps, en laissant aussi l'œuvre d'art agir sur soi et pas en arrivant devant l'œuvre et en voulant tout de suite lui donner un sens.
Merci beaucoup Adrien Goetz pour cette lecture de la recherche. Dès demain, nous rentrerons dans le vif du sujet avec le premier art au programme de notre semaine. Ce sera la musique qui prend corps dans le roman À travers Vinteuil, bien sûr, et sa jolie petite sonate. À demain, bonne soirée à tous.
Come to me, come to me. Time to
Et c'était Mathieu Bogart's Come to Me sur France Inter. Demain mardi 20 août, Laura El Maki reçoit de nouveau Adrien Gotz, lecteur de Proust, pour Un été avec Proust. Et 20h25 sur France Inter, il est l'heure de retrouver l'atelier de Vincent Josse. Ce soir, Vincent vous propose une rediffusion de l'atelier de Brigitte Fontaine.